Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Je reviens ce matin sur certains événements qui ont marqué la fin de 2023, début 2024. On a vu dans les médias, autant TVA que Radio-Canada annoncer des compressions budgétaires, ce qui a un effet direct sur la production et sur les émissions de télé, les séries que vous allez regarder dans les prochains mois. Il y a des enjeux donc importants. Puis aussi cette tradition de fin d'année qui est le bye-bye. Toujours un peu la même chose. Les gens, rient à partir de certains segments d'émission, puis d'autres trouvent ça plate, puis ça chiale, puis ça alimente les conversations du début de l'année. Qui d'autre pour en parler que celui qui a beaucoup de chapeaux? Il est acteur, auteur, producteur. Louis Morissette est avec nous. Louis, bonjour.
Bonjour Paul, bon retour.
C'est gentil. Première question que j'ai envie de te poser, c'est d'aller jouer dans le bye-bye quand on a eu déjà la responsabilité du bye-bye. T'as vu ça comment? Comment t'as approché ce rôle qu'on te donnait cette année?
C'était pas nécessairement un rêve là, de retourner à la science. C'était pas un objectif. C'est juste que quand ils m'ont approché, ils m'ont envoyé le texte, en fait. L'équipe de production m'a envoyé le texte et j'ai trouvé que c'était un bon texte de bye-bye que je n'avais pas écrit. Là. Pour moi qui ai écrit le texte, fait que le mérite leur revient. Puis pour en avoir fait beaucoup, quand je l'ai lu, j'ai fait comme « Ah, ça peut, si c'est bien exécuté, ça peut être très efficace. » Alors, je me suis mis à travailler et j'ai dit « Ah, je vais le faire. »
Quand tu dis « je me suis mis à travailler », ça veut dire quoi? Trouver l'intonation,
essayer de camper Martin et Matt le mieux possible. On a tous nos tics, là, on a tous nos façons de faire. En plus, comme animateur, il avait moins fait ça. Fait que là, j'essayais d'aller l'écouter pour essayer de le parodier le mieux possible. Mais je me disais, si je le fais bien, là, je vais rendre justice au texte de l'équipe, puis ça devrait être assez bon.
OK, on va écouter ensemble un extrait.
En direct de Montréal, c'est Martin Matt en détresse!
Bienvenue à Martin Matt en détresse. Je reçois beaucoup de commentaires du public qui disent « J'aime pas ton talk show, t'as pas l'air à l'aise, mais j'ai commencé à aimer ça quand j'ai compris que c'était la nouvelle saison des beaux malaises. »
C'est trop gentil!
OK, on s'en va à la pause. Au retour, je continue de parler avec mon ton ironique qui mélange toutes mes invités. Ouais! T'étais bonne.
Tu me niaises-tu, là? Mais t'es sérieux?
Martin Matt en détresse. Une présentation de Maxi.
Chitron? Où il y avait? Les deux. Ah ouais? Les deux.
Bon, disons que c'est un texte serré, punché, puis une mise en scène, une réalisation de même niveau, là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps mort là-dedans, là.
Non, pas tant. Non, ils l'ont très bien fait, oui.
Dis-moi, est-ce qu'un humoriste a le sens de l'humour? As-tu des nouvelles de Martin Matt?
Bon, j'ai pas une nouvelle de Martin Matt, mais je suis pas obligé d'avoir des nouvelles de Martin Matt non plus. Est-ce que la bonne question, quoi, c'est est-ce que les humoristes ont le sens de l'humour? Historiquement, là, pour mon expérience, là, c'est pas mal les gens qui en ont moins de sens de sens de l'humour. Là, c'est comme les humoristes aiment rire des gens, c'est pas ceux qui rient le plus d'eux-mêmes. Tu sais, et cette fameuse phrase, c'est un honneur de se faire parodier dans un bye-bye. Ben, il y a un contexte. Il y a des fois, c'est plus un honneur que d'autres. Fait que je m'attends pas à ce que Martin ait passé un grand moment puis qu'il ait trippé. Fait que c'est correct qu'il m'appelle pas non plus, là. En même temps, il y a de l'expérience. Il peut bien se douter qu'il y aurait un sketch sur son talk show au bye-bye.
Mais c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de gêner. Moi, je l'ai vu dans des galas où, on le sait, mais provoquer des malaises, là, c'est le cas de le dire. Normalement, tu dis, OK, je joue ça, ben ça se peut que j'en sois à mon tour un jour victime.
Ben oui, c'est ça. Ben, tu sais, des gars comme Martin et moi, tu sais, je vais me rentrer dans cette catégorie-là. On y va avec un punch nous-mêmes. Fait qu'il faut pas se surprendre quand ça revient. Disons que l'empathie, des fois, est plus limitée pour des gars comme Martin, moi ou d'autres. Fait que,
est-ce que tu es en train de me dire qu'il y a, des auteurs, il y a des auteurs qui se défoulent parce que tu dis, bon, là, j'ai une belle occasion?
En fait, la question, je me suis même posé la question quand j'ai lu le texte. Je savais bien là, que c'était un texte qui était assez en frontal, moi, dire. Fait que là, je me suis dit, est-ce que Martin le ferait? Fait que la question, ma réponse a été, oui, il le ferait. Fait que j'ai dit, bon, je vais y aller moi aussi.
L'autre question que je vais te poser concernant le bye-bye, c'est la suivante. On sait qu'il y a un sketch sur le gouvernement Legault, sur les nombreuses erreurs de 2023, puis des comme il l'a dit lui-même, quand il a perdu la boussole depuis l'automne, avec une référence à l'émission Plan B. Est-ce que ça devient difficile d'écrire un bye-bye quand il y a autant de séries disponibles? À l'époque où tu avais deux réseaux, puis des émissions rassembleuses au-dessus d'un million, deux millions de téléspectateurs, c'est une chose, mais des gens qui connaissent pas Plan B, qui ont de la misère à se situer.
Ben oui, complètement. Et c'est ça qui... Moi, je leur lève mon chapeau quand même à l'équipe du Bye Bye cette année pour cette raison-là, dans le sens que pour rire de quelque chose, il faut que les gens aient une référence. Ça nous prend un référent commun. Sinon, si tu sais pas de quoi je parle, tu pourras pas rire. Donc, c'est ça qui devient... Tu sais, quand on dit « Ah, c'est meilleur dans le temps de dodo » puis tout, ouais, oui, non, je veux dire, je pense que l'humour évolue, la technologie évolue, sauf qu'on avait tous et toutes le même référent. Et là, ça devient très difficile. Tu sais, je veux dire, Plan B, c'est une série que, évidemment, que j'affectionne et tout, mais c'est pas quelque chose qui fait 2 millions de codes d'écoute à la télé. Fait que les gens peuvent être complètement perdus. Puis après ça, ben, on se retrouve que pour s'informer, ben là, ben, Meta ne veut plus comme partager sur les réseaux sociaux certaines nouvelles, ben, et les réseaux sociaux deviennent la seule source d'information de certaines personnes. Donc, même comment on réussit à pouvoir parler de faits d'actualité autres que la télé, là, mais même dans peu importe le domaine, comment on réussit à tous avoir le même référent pour en rire, ça devient de plus en plus difficile. Fait qu'à un moment donné, les gens font comme moi, j'ai pas ri. Ouais, mais est-ce que t'as même compris de quoi on parlait? Mmh. Ben, pas tant. Ah ouais, c'est peut-être pour ça, en fait.
Bon, je veux qu'on parle de l'avenir de la télévision au sens très pratique du terme, avec les annonces faites par TVA d'un côté, Radio-Canada. T'es un producteur. Comment tu vois les prochains mois, les prochaines années?
Ah ben, je suis en termes de semaines et de mois, Paul. Parce que moi, je me fais même surprendre à... Je trouve qu'en fait, la pente descendante est plus accélérée que je l'avais anticipé. Ça va vite, on pourrait se retrouver dans un cul-de-sac assez vite. Fait que je suis même pas en termes d'années.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Je veux dire que ça s'accélère vraiment. Je pense que la culture québécoise est en danger plus rapidement qu'on peut même le penser. Puis je sais que là, avant les fêtes, il y a une photo qui est sortie sur les réseaux sociaux. Certains producteurs, on a rencontré le premier ministre pour aller lui expliquer nos craintes. Et là, je me fais, mettons, répondre par certaines personnes. Ouais, c'est ça, têteux, subvention, tout ça. Moi, ce que je dis aux gens, puis c'est un peu la même chose que je disais dans les médias avec Marie-Louise Arsenault, c'est oublier, là, chaque industrie est subventionnée au Québec. Quand ils ouvrent des usines de batteries, puis de camions, puis d'auto, puis de n'importe quoi, c'est subventionné, c'est aidé par l'État. La culture l'est de la même façon. Mais la culture, en plus, définit qui nous sommes comme Québécois, qui nous voulons être comme Québécois. Est-ce que nous voulons avoir une culture francophone, parler français, avoir un système francophone ici où on veut devenir comme le reste du Canada, juste une succursale américaine? Et là, on est à cette étape-là. Est-ce qu'on veut encore, en tant que société, en tant que Québécois, soutenir et supporter cette culture-là, ça va arriver de différentes façons, mais il faut aider un peu. Là, évidemment, l'entreprise privée, je peux pas, que je parle de Québécois ou je parle de Bell, quoi que ce soit, je peux pas les blâmer. Si les revenus ne sont plus là, eux, ils coupent. Donc, si on veut garder ce système-là, il va falloir que peut-être que l'État prenne une décision corporative de dire, ben, on va soutenir encore plus la culture au Québec. Il faut vraiment être là. Parce qu'il y a des affaires qui sont inquiétantes présentement. Là, je vais faire un petit détour pour quelque chose qui est un petit peu technique, mais le crédit d'impôt était quelque chose qui est, qui allait aux producteurs privés pour les aider à avoir une industrie de la production privée, faire des plans B, justement. Maintenant, il y a des compagnies, il y a des diffuseurs qui achètent des compagnies de production maintenant et qui vont chercher ce crédit par la bande. Acheter une compagnie, deux compagnies, trois compagnies. Qu'est-ce qui va arriver à terme? Ils vont acheter 4-5 compagnies, ils vont toutes les regrouper, ils vont faire un studio, comme les studios américains, et ça va être la fin de notre industrie. Il y a des gros, gros défis qui s'en viennent pour nous.
Des auditeurs partagent parfois des réflexions. Et je partage ça maintenant avec toi. Un auditeur qui me disait, « Ouais, mais il y a beaucoup, beaucoup de séries. Est-ce qu'il y en a pas trop? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à prendre les budgets, puis faire des produits avec des budgets supérieurs, des productions plus spectaculaires, que d'enchaîner, je reprends son expression, un paquet de séries où ça se passe dans un loft ou une usine désaffectée? »
Ben, c'est une super question. Puis ma réponse à moi, c'est oui. Faudrait en faire moins, le faire mieux, puis se donner une vraie chance sur le marché international. Donc, c'est pas une réponse qui est populaire, parce que ça veut dire qu'il y a moins... peut-être moins d'acteurs et actrices qui travaillent. On pense qu'on voit toujours le même monde, ça va être encore pire si on fait ça, là. Mais je pense qu'on n'aura pas le choix à un certain point. De l'autre côté, ça rejoint mon autre point que je disais tantôt, c'est-à-dire si des compagnies, si des Québécois puis des TVA achètent des compagnies de prod, à terme, leur intérêt n'est pas de faire des productions de qualité, c'est de faire des productions qui sont le plus rentables pour vendre la publicité. Fait que là, on valorise pas la création, on valorise pas quelque chose qui est bon, on valorise quelque chose qui marche, on valorise la saucisse. Fait que fait que tu sais, il y a beaucoup de choses dans cette question-là, mais moi, je pense que oui. Mais tu sais, dans le meilleur des mondes, Paul, on se regrouperait, on ferait de plus grosses séries, puis on se donnerait une chance d'avoir une pénétration du marché international. Mais ça, se regrouper, ça veut dire d'asseoir tout le monde à la même table. Il y en a qui s'assoient jamais à la table du monde.
Est-ce que tu vois la possibilité de partenariat, genre ta maison de production avec Netflix, avec un autre diffuseur, une autre, je sais pas moi, Amazon, pour produire des séries, que de dire je me présente chez un diffuseur qui achète mon projet, c'est une approche qui est maintenant périmée?
Oui et non. C'est-à-dire que je pense qu'Attraction, vers la fin de l'année, la boîte de production Attraction au Québec a annoncé qu'il y avait ce qu'on appelle un droit de premier regard dans leur projet. Fait que là, j'anticipe qu'ils vont annoncer bientôt une série, des séries faites avec Netflix. Mais Netflix a pas dépensé beaucoup au Québec encore. Au Canada, oui, mais ils produisent à Vancouver et à Toronto. Mais au Québec, très peu de choses. Fait que ce serait souhaitable de le faire, mais je pense, à ce stade-ci, faut encore s'organiser dans notre marché. Ce qui est Netflix, Amazon, c'est si peu. J'ai fait un film avec eux autres, Le Guide de la Famille Parfaite, mais il n'y a pas eu d'autres, je pense, depuis. Fait que c'est long. C'est comme la loterie. Puis maintenant, on dirait qu'ils font juste comme un projet pour avoir l'air d'un bon citoyen corporatif. Après ça, ils vont en avoir un autre dans 3 ans. Il n'y a aucune compagnie qui peut avoir des assises solides avec eux comme partenaires présentement. En tout cas, ça, c'est ma lecture. Donc, il faut s'arranger pour avoir un système qui fonctionne plus ici, localement, et espérer que nos projets sont assez bons pour aller les vendre dans le monde après.
En terminant, est-ce que tu penses un jour réussir à vendre un produit à Québécois?
À Québécois?
TVA.
Oui, mais qui va être propriétaire? C'est ça la question. À l'entreprise, tout se peut.
OK. Mais je te rappelle que M. Péladeau est l'actionnaire de contrôle.
Oui, c'est ça. Mais tout s'achète, tout se vend. À quelle année, on verra.
Donc, pas avant.
Avant ça, ça peut être difficile.
Merci beaucoup, Louis.
Merci, bonne journée, Paul.
Au revoir. Louis Morissette, qui était notre invité ce matin.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
J'ai vu les résultats de ce sondage léger concernant les habitudes de consommation, d'alimentation, en fait, des Québécois. Et c'est assez étonnant de découvrir que, en gros, 25 % des Québécois n'ont pas de plaisir à manger.
C'est triste.
Ben, tu sais, je peux comprendre si t'as pas de revenus, puis tu sais, c'est difficile, puis c'est vrai que ça coûte de plus en plus cher, là. Mais de dire, je fais les courses par obligation, je mange 3 fois par jour ou 2 fois par jour parce que j'ai pas le choix, c'est quand même énorme. Et il y a différents types de mangeurs, selon ce sondage. J'en parle avec Guillaume Mathieu, qui est cofondateur et associé d'ILO. Monsieur Mathieu, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
D'abord, c'est quoi ce ILO?
ILO, on est une firme de stratégie en agroalimentaire. On aide les entreprises ici, tant les petits producteurs de fruits bio que des grands joueurs établis comme Exceldor, dans la définition de leur stratégie de marque, leur stratégie de déploiement, de développement. Donc, c'est ce qu'on fait. On organise aussi des formations pour les gens de l'industrie, des événements pour parler des grands enjeux. Et on publie une publication annuelle qui s'appelle justement « Bouillon », dans laquelle était présentée en exclusivité l'étude à laquelle vous faites référence.
OK. Comment vous expliquez ça, que le quart des Québécois, ce qui est quand même énorme, là, ont pas de plaisir à manger?
Ouais, moi aussi, c'est une donnée qui m'a vraiment surpris lorsqu'on a reçu les résultats. Étant un grand amateur moi-même, c'est une donnée qui est difficile à comprendre. Mais en fait, en faisant l'étude, on a séparé les Québécois en 8 types de mangeurs regroupés en 4 grandes familles. Donc, le corps auquel on fait référence, c'est une qu'une portion des types de mangeurs. À l'opposé de ces gens-là, on a aussi des passionnés. Là. Donc, pour quasiment le même pourcentage, on a des gens pour qui la nourriture est véritablement une source de passion, de plaisir. On pourrait dire qu'ils vivent pour manger plutôt que manger pour vivre.
Des foodies.
Ouais, des vrais de vrais.
Mais c'est parce que quand on regarde les livres les plus vendus au Québec, souvent ce sont des livres de recettes. Y a des chaînes spécialisées, il y a des émissions de cuisine. Il y a une offre alimentaire dans les médias qui est quand même présente, là.
Oui, qui est très présente. Puis pour les gens ont une relation vraiment très différente avec la nourriture. T'sais, les passionnés, parmi ces gens-là, il y a des gens qui vont collectionner des recettes comme d'autres collectionnent des timbres ou des vinyles. Mais il y a des gens aussi qui sont purement spontanés. Donc, qui, eux, vont peut-être écouter ces émissions de cuisine-là, mais ils savent très bien qu'ils ne feront jamais cette recette-là parce qu'ils n'ont aucune capacité à planifier leur repas, leur offre alimentaire. Eux autres, ils vont vraiment dans les décisions sur le moment, des coups de tête, selon ce qui est disponible à un moment X. Donc, on écoute, on consomme ce genre de contenu-là, mais c'est souvent plus pour se divertir qu'autre chose.
Est-ce que, j'ai pas vu le détail du sondage, mais est-ce qu'il y a un pourcentage de gens élevés qui rentrent à l'épicerie avec pas d'idée en tête et qui sont un peu là à acheter ce qui leur tombe devant eux, là, puis qui achètent avec impulsion?
Oui, on les appelle dans notre étude les spontanés.
Nous, on les appelle donc Frédéric Labelle aussi.
Il représente environ 30% des consommateurs québécois. Donc, eux, vraiment, là, pour 70% d'entre eux, ils vont à l'épicerie plusieurs fois par semaine. C'est le fameux groupe des gens qui, à 16h, un mardi, ne savent pas ce qu'ils vont manger pour souper. Donc, ils sont séparés en deux sous-groupes, en deux types de mangeurs. Il y a les gens qu'on appelle les sans-chichis. Là. Eux, là, peu importe ce qu'on leur présente, ils vont le manger. Ils n'ont pas vraiment ils cherchent pas de valeur ou de nutritionnelle, ou ils cherchent peu importe, eux autres, ils veulent juste manger. Puis on a des spontanés qu'on appelle plus curieux. Donc des gens qui sont vraiment à la recherche là, de découvertes, qui veulent vraiment expérimenter et tout ça. Donc eux vont rentrer à l'épicerie sans liste claire, mais ils veulent vraiment être en mode de découvrir.
OK, je me souviens d'une tendance très forte puis qui a fonctionné aussi avec la pandémie. Tous les good food de ce monde, là, les plats préparés qu'on commande puis qu'on a juste à cuisiner puis même pas des fois à couper en carottes, là, est-ce que ça fonctionne encore ou si c'est moins populaire?
Ben, quand on regarde les chiffres, les performances financières de ces entreprises-là, M. McSween pourrait vous en parler, on voit qu'il y a un grand ralentissement là, qui s'opère. Je viens d'en parler, là, il y a un groupe de spontanés, il y a des gens qui sont purement des pratico-pratiques, là, qui n'ont pas de plaisir nécessairement à manger, qui eux vont fréquenter des grandes surfaces. Donc, quand on considère qu'une grande proportion de la population n'est pas en mesure de planifier ses repas, sachant que ces boîtes-là doivent être commandées quelques heures, voire quelques jours d'avance pour les recevoir à la maison à temps, ben c'est certain qu'on peut se questionner sur le futur de ce genre d'entreprise-là.
Merci beaucoup, M. Mathieu. Bonne journée.
Ça me fait plaisir.
Merci, au revoir. Alors, Guillaume Mathieu, qui est cofondateur et associé d'ILO.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
C'est dans un autre contexte ce matin que nous recevons avec enthousiasme, plaisir et dévotion notre ami Fabien Cloutier pour parler de sa liste longue de projets qui est en préparation, d'autres que vous pouvez voir également. Fabien, bonjour.
Bonjour Paul.
Fabien, avant de parler de Léo,
ouais.
J'ai écouté deux épisodes de LOL
ouais.
Sur Amazon. La deuxième saison avec Patrick Huard et tes camarades de ouais. L'industrie de l'humour et du spectacle. C'est quelque chose.
C'est quelque chose, c'est vraiment le fun à faire.
Écoute, c'est aussi drôle quand quelqu'un rit que quand quelqu'un ne rit pas ou tente d'avoir l'air bête pour provoquer quelque chose.
C'est ça, puis tu sais, cette espèce de retenue-là aussi que tu dois avoir, puis des fois, parce que c'est complètement inhabituel dans la vie en plus, là, tu sais, puis même de lutter contre le sourire, tu sais, il y a des choses que tu fais pas à tout bout de champ, puis mais c'est souffrant. Mais c'est une non mais c'est une belle souffrance, tu sais, c'est comme que ce soit sur des plateaux de tournage. Moi je me dis, tu sais, quand tu reviens de travailler puis que t'es fatigué d'avoir soit trop ri ou d'avoir de t'être retenu de rire dans un cas comme LOL, ben t'es privilégié là, tu fais une belle job.
Pour les gens qui ont jamais vu l'émission, la première saison et la deuxième là, qui est disponible, c'est l'objectif, c'est de pas rire, là, puis de se faire tenter avec toutes sortes de numéros, de performances, puis autres, puis même des jeux. Ça me faisait penser un peu à l'impro, tu sais, du corps à corps ou la proximité.
Ouais, c'est ça. Tu sais, puis on se prépare des choses de chacun de notre côté, mais en même temps, on sait pas du tout qui va être là. Puis ça, c'est vrai. Là, ils réussissent à bien garder le là-dessus. Tu sais, moi, les scènes où on entre dans le manoir puis on découvre tout le monde, c'est la première fois pour vrai. Tu sais, c'est vraiment très bien fait de ce côté-là. Mais tu sais, tu te prépares des choses, mais tout à coup sur la journée même, il se passe des petites affaires, puis que là tu fais, ok, on dirait que cette personne-là, je peux l'avoir avec ça.
C'est volontaire de jouer le rôle de l'étudiant de théâtre qui se retrouve parmi les saltimbanques.
Ben ils m'ont présenté comme ça. Ben je pense que oui, je trouve. Mais oui, aussi, tu sais, j'ai décidé de jouer avec cette affaire-là, en plus, ouais. Tu sais, notamment dans des numéros, tout ça. Mais il y a quelque chose de ça, tu sais, j'ai un parcours différent de la majeure partie de mes collègues, mais je trouve qu'on se retrouve bien. Puis soit dit en passant, je trouve que cette affaire-là entre humoriste, acteur, puis tout ça, tu sais, le lien se fait beaucoup plus facilement qu'avant, tu sais, que ce soit avec les cours de scénarisation à l'École nationale de l'humour, tout ça, tu sais, les acteurs jouent dans les trucs des autres. Il y a un mélange qui se fait de façon beaucoup plus naturelle et saine, peut-être que ça s'est fait il y a un certain temps, en tout cas oui. Avec moins de colère ou quelque chose comme ça.
Je me souviens des premiers castings avec, je sais pas, Patrick Huard puis Jean-Michel Anctil.
C'est ça, ça graffinait.
C'était venteux.
Ça graffinait un peu plus.
Plus venteux qu'à matin.
Ouais.
Je veux pas dévoiler des éléments trop, mais j'ai une question quand même. Là.
Ouais.
Il y a une pieuvre qui arrive sur le plateau. Tu t'en empares. Qu'est-ce qu'elle est devenue?
On a fini par s'en départir parce que...
Je pensais que t'allais la cuisiner.
On avait peur des odeurs. J'ai failli la cuisiner. Ben, faut s'entendre aussi qu'il y a de nombreuses coupures, hein.
Ouais.
On part à 10 personnes, 6 heures de temps. Donc, il y a des bouts, tu sais, la pieuvre, là, le dépeçage de la pieuvre. On a été quand même, je me souviens, tu sais, une dizaine de minutes là-dessus. Mais peut-être qu'à l'écran, ça donnait quelque chose de pas super beau non plus.
C'est parce que tu t'attaches finalement à la pieuvre, puis là, ouf!
Ah, tout à coup, elle a disparu. Ah ben, c'est ça, hein, 10 personnes, 6 heures de temps pour en faire, tu sais, 6 demi-heures de télé. Il y a de la coupure en masse, ça écrème.
Léo, ça commence ce soir officiellement,
ouais.
C'est la dernière saison. Comment t'as approché cette dernière saison? Parce que c'est sûr, t'as créé ces personnages au début, cet univers, cette proximité, puis les gens se sont attachés. Pis c'est souvent la dernière saison puis le dernier épisode, là, tu dis, c'est peut-être l'affaire la plus difficile pour un auteur puis un créateur à faire.
Ben tu sais, nous autres, on s'est rendu compte avec les années, tu sais, le personnage a évolué, il a changé, tu sais, autant au début on sentait qu'il avait besoin d'aide, se cherchait, travail, amour, tu sais, toutes ces affaires-là. Il y a vraiment quelque chose au fil des 4 premières saisons où est-ce qu'il s'est placé, ce qui fait qu'il est devenu un peu le pilier de la gang autour de lui. Fait qu'on a abordé cette saison-là avec dans cette idée-là où est-ce que là les gens autour vont le voir, tu sais, ont besoin de conseils, ont besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Puis ça nous permettait aussi d'entrer davantage dans le quotidien de certains personnages, je vais dire secondaires là, mais des dernières années, tu sais, qu'on a vu au fil des ans, mais qu'on a jamais, on les a jamais vus chez eux. Des fois, on les a pas vus en couple, tout ça. Fait qu'on rentre un petit peu plus dans l'univers de ces personnages-là. Léo, Cindy, tout le monde est toujours là, mais des fois, le moteur de l'épisode appartient à, j'aurais envie de dire, à un autre personnage. Puis ça, ben, ça permet de juste voir Léo aussi, qui au fil du temps est un peu, hey, je m'a retrouvé un vendredi soir, puis pas aider personne. Ça pourrait être le fun, une fois de temps en temps, mais c'est un grand cœur, puis il aide son monde.
Comment c'est vu dans les régions, tu penses? Parce que, j'allais dire, d'abord, il y a eu des séries là qui nous ont fait voyager au Québec. Puis c'est drôle, j'ai l'impression qu'il y en a plus. Il y a une série policière qui se passe aux îles de la Madeleine.
Ouais.
C'est comme si on sortait des grands centres, puis de Montréal en particulier. Mais souvent, il y a des gens qui disaient, ouais, mais là, c'est toujours la réalité de Montréal qu'on voit. Puis là, tu nous amènes ailleurs dans une série comme celle. Comment c'est vu?
Je crois que c'est très bien vu. En tout cas, moi, les commentaires que je reçois, puis quand je, tu sais, parce que je me promène aussi, là, tu sais, la tournée fait qu'on rencontre le monde, c'est très bien vu. Je pense que le monde se sont reconnus dans le quotidien de ce personnage-là, puis même dans les personnages qui, tu sais, qui sont plus, j'aurais envie de dire, éclatants ou qu'on pousse un petit peu plus loin, les gens nous disent, je les connais, il y en a un ici, tu sais, il y en a des comme ça, on les entend, ces choses-là. Je pense qu'ils se sont reconnus aussi dans les qualités et dans les défauts de tous ces personnages-là, dans leur langage, dans leur couleur, dans leur honnêteté. Tu sais, il y a pas beaucoup de non-dits dans Léo, hein. Tu sais, ça dit ce que ça pense.
Oui. Pas toujours avec élégance.
Et ça, je pense que ça fait du bien. Tu sais, des gens qui se permettent de se fâcher, puis qui se permettent de y aller un peu, puis d'avoir des éclats, puis de se dire les choses, mais qui après ça font, garde une petite poignée de main, un coup sur l'épaule.
Je me souviens d'un épisode quand Léo débarque en ville.
Oui. Ben, tu sais, ça a toujours été, tu sais, puis on le ramène en ville aussi, tu sais, dans la saison 5. Il est beaucoup plus en paix cette fois-là avec la ville, mais ça demeure...
C'est un choc.
C'est un choc. Puis, tu sais, ça va être un choc aussi, tu sais, les personnages autour, là, tu sais, ils veulent pas que Léo se rende en ville. Ça fait bien peur à Couture, tu sais, pour lui, Montréal, c'est une ville de malades. Puis, si tu te promènes en baissier, si t'es pas en baissier capitale, tu te fais cracher dessus. Fait que, tu sais, c'est un épisode, en tout cas, ce soir, où il y a bien du préjugé qui sort, autant pour la ville de Montréal que pour certaines régions. Tu sais, ça décolle. Mais je pense que les gens ont accepté cet humour-là, puis qui leur a fait du bien. Puis moi, tu sais, il y a beaucoup d'enlèvements. Non, mais encore dernièrement, tu zappes un peu, puis là, tu fais, oh, il y a quelqu'un dans une cave à enlever. Oh, il y a un autre enlèvement là. Puis là, tu fais, mais il y a donc bien des enlèvements à télé. À un moment donné, peut-être que c'est le fun aussi de voir du monde qui ont une vie proche de la nôtre, puis qui, tu sais, qui ont des aspirations près des nôtres.
Je me souviens que souvent, ça passe par ce que la TV envoie. Et quand t'écoutes, exemple, LCN 24 heures sur 24, là, puis t'es en permanence là-dessus, d'abord, tu penses qu'on est en état de crime organisé, puis que, tu sais, on sort en ville pour recevoir une balle. Là.
C'est ça, puis que c'est impraticable.
C'est impraticable. Et la perception sur qui sont les gens de Montréal. Je me souviens du fameux défilé gay au début. Puis j'avais un collègue de travail dont les parents vivaient en région qui disait, coudonc, sont-ils tous de même? Puis ils s'habillent pas, puis ils font salaire sur des chars allégoriques, c'est quoi ça? Puis là, t'avais beau leur dire, ben non, c'est une fête, c'est pas comme ça tout le temps. Mais c'est la perception qui...
Puis c'est aussi cette époque où on les voyait, tu sais, on voyait cette réalité-là juste à ce moment-là aussi. Fait que, tu sais, c'est sûr que d'amener aussi des fois des personnages qui vont vers là, tu sais, puis la télé peut aider à une certaine normalisation aussi.
Ouais.
Puis tu sais, je pense que ça se fait dans l'autre sens aussi, des fois en montrant une réalité régionale, puis que ça soit pas juste du monde, tu sais, qui tu sais, que c'est des gens qui ont les mêmes aspirations que partout, là, tu sais, de chercher
mais
le bonheur.
Mais c'est important pour toi de montrer ça, parce que je regarde des projets que tu fais, mon Léo, c'en est un. Prendre le bois, si tu nous amènes à découvrir des gens qui sont pas, là, des amateurs de nature de week-end, là, c'est leur vie. C'est important pour toi de faire découvrir ces aspects-là.
Ben oui, puis tu sais, c'est pour ça que des fois, tu sais, en touchant au documentaire, ça, tu sais, c'est une autre façon d'y arriver, tu sais, le ça me touche plus. Tu sais, ça m'intéresse plus. Tu sais, je trouve que, tu sais, c'est bien bête, là, mais tu sais, se lever le matin, avoir une job qu'on n'aime pas toujours, revenir chez nous, avoir son monde, tu sais, avoir des enfants, tu sais, qu'on réussit à amener où ils doivent aller, tout ça. Je trouve que c'est une grande réussite, cette affaire-là. Je trouve que le quotidien peut être magnifié, puis je trouve que, tu sais, quand on regarde des images d'en haut puis qu'on voit un paquet de bungalows, là, moi, des fois, je fais, il y a tellement d'histoires dans une seule de ces maisons-là, il y a une histoire digne d'être racontée. Il y a un succès immense, il y a un deuil immense, il y a quelque chose de grand là-dedans, alors que des fois, on a tendance à voir l'effet global, puis on fait, non, faut s'éloigner de là. Ça, c'est la petite vie ordinaire, là. Il y a pas d'intérêt, là. Moi, ça m'intéresse plus, cette affaire-là. Tu sais, la campagne, la banlieue, mais c'est ça que je connais aussi. Fait que, tu sais, je vais où est-ce que je connais. Je vous écrirai pas, moi, une série dans le milieu de la pub, puis des avocats, puis de... Tu sais, ça... Il y en a des très bonnes, puis il y a des gens qui le font très bien, puis ça doit exister, mais c'est pas moi qui vais l'écrire. Ça m'intéresse moins.
Est-ce que tu penses que tu travailles trop?
Non. Non, tu sais, c'est sûr que c'est parce que presque tout ce que je fais,
on le voit en même temps.
Puis a une visibilité. Puis moi je regarde du monde autour de moi là, tu sais, qui ont justement, je vais dire, des jobs normaux, puis je regarde le nombre de semaines de vacances qu'ils ont dans l'année, puis je fais, j'en ai plus. C'est simple, j'en ai plus. Sauf que oui, j'ai l'air d'avoir, tu sais, parce que tu t'en vas en show, ben tu l'annonces, tu fais, tu sais, t'as un nouveau show de TV qui part, tu le fais. Là, Léo arrive en même temps que tu sais, de trop quelques jours après LOL. Mais Léo, c'est l'automne. Pas le dernier là, qu'on a fait ça il y a plus d'un an. LOL, c'était au début de l'été. Fait qu'il y a un paquet de choses comme ça qui, des fois, arrivent. Puis là, le monde font tabarouette, t'es partout. Ouais, mais je viens quand même d'avoir un bon congé des fêtes, là, complètement arrêté.
J'ai vu ça.
Oui, oui.
On a partagé quelques photos.
Ça s'est passé
un petit peu dans le bois.
En forêt, oui, complètement.
Puis un moment de récupération entre les batchs d'invités.
Oui, c'est, ça en prend, c'est sûr que, ben moi, chez nous,
mais toi,
il y a
le temps
du monde.
Des fêtes, ça ressemble à quoi?
Ah, ça prend du monde, et tu sais, mais j'ai besoin d'aller en campagne, mais il y a du monde chez nous, ça vire. Il y a de la visite, tu sais, puis des fois, on le sait, tu sais, on est content qu'elle arrive, puis on est content qu'elle part, mais on se fait, il y a des gens qu'on dit, hey, si on veut avoir le temps de les voir, là, fait qu'on, bon, je dirais pas, on fait un horaire, là, mais c'est pas mal cet été, puis il passe beaucoup de monde, puis beaucoup, tu sais, moi, j'aime ce côté-là festif, j'aime ça aussi que mes enfants découvrent cette, pas découvrent parce qu'ils ont toujours vécu dedans, mais qu'ils soient entourés de monde. Il y a beaucoup de monde qui sont presque seuls dans la vie. Là quand tu as la chance d'avoir... Moi, j'ai des grosses familles. Tu sais, mon père était 15. Fait que, tu sais, je voudrais voir tous mes cousins et cousines dans l'année. Ça se peut pas, j'en ai 70 en tout. Fait que je connais du monde qui en ont un puis deux. Fait que moi, j'en ai plein. Je peux choisir ceux que je vois. Tu sais, j'ai pas le temps, tu sais. Tous ceux que j'aime, j'ai pas le temps de les voir parce que j'en ai plein. Puis je pars en tournée, puis j'ai des oncles, des tantes presque partout. J'en ai 40, mon oncle, ma tante. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça, pour moi, les congés. C'est ça, la famille élargie. Là. Puis rajoute les amis là-dessus. Fait qu'il y a du monde. Puis on fait des gros plats à la table, puis servez-vous. T'sais, à partir du moment où je sers trop le monde, ils reviennent un peu moins.
OK. Après ça, allez-vous-en.
Allez-vous-en.
Fabien, merci beaucoup.
Hey, merci, Paul.
Léo, la cinquième et dernière saison, c'est maintenant disponible en rafale aussi sur le club Illico. Et c'est présenté chaque semaine à TVA.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Bon, il y a plein de nouvelles sportives ce matin, mais l'élément le plus important, je pense, c'est l'annonce hier de la fin de cette liaison d'affaires entre Tiger Woods et Nike. Donc, c'est terminé, l'entente commerciale entre les deux.
Écoute, c'est l'entente qui durait depuis tout près de 30 ans entre les deux, 27 ans exactement. Dès que Tiger a fait le saut chez les professionnels, on s'est associé, Nike s'est associé à Tiger, et il y avait eu ce slogan, le premier, parce que Tiger, évidemment, avait une carrière phénoménale dans les rangs amateurs, alors il était attendu chez les professionnels, et il y a eu ce commentaire, Hello World, qui avait été le premier slogan utilisé par Nike pour souligner l'arrivée de Tiger sur le circuit de la PGA. Ça a été une association qui a rapporté, semble-t-il, à Tiger 500 millions de dollars et qui, pour Nike, a été une affaire incroyable. On parle d'un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars avec une pointe à 791 millions en 2013. Et pour nous parler de cette association et peut-être de ce qui s'en vient également, parce que Tiger, il dit, il va y avoir un nouveau chapitre, là. Bon. On va aller retrouver Luc Dupont de l'Université d'Ottawa. Monsieur Dupont, bonjour.
Bonjour à vous deux.
Bon, d'abord, qu'est-ce que, sur un sens plus large, qu'est-ce qui amène un athlète comme Tiger à briser les liens d'affaires avec une entreprise quand ça a été si profitable au fil des ans?
Un, parce que Nike graduellement s'est retiré du marché du golf. Je prétends pas qu'ils ne sont plus là, les vêtements, les souliers, mais les équipements. Alors, en 2016, ils avaient décidé de momentanément passer à autre chose. Deux, ben, on a eu l'indice de son fils, tout juste avant la période des fêtes, qui a signé avec Grayson, pas Nike, mais Grayson, qui est une nouvelle firme dans le domaine du vêtement de golf. En 2021, Tiger Woods nous avait annoncé que dorénavant, il ne jouerait plus avec des souliers Nike, mais avec des FootJoy. Et là, ce qu'il avait invoqué, c'est qu'il avait besoin d'un certain type de souliers très particulier. Remarquez que si il l'avait demandé à Nike, je suis certain qu'ils auraient pu concevoir ce type de souliers-là. Donc, on avait quelques petits indices comme ça, mais le grand moment, c'est quand Nike dit, savez-vous quoi? Le soccer est tellement payant que peut-être qu'on va ralentir la cadence du côté du golf.
Il y a eu évidemment l'association Michael Jordan, les fameux Air Jordan également, là. Est-ce que c'était quelque chose de comparable, Tiger et Nike?
Je pense que oui, ça serait le plus proche. Évidemment, il n'y a pas le ceci ou le cela Tiger Woods, mais l'effet Tiger Woods, lui, il a été à peu près instantané parce que avant de signer avec Nike, alors Nike avait des ventes annuelles en 1995 de 30 millions de dollars du côté du golf. Alors, on va s'entendre pour dire que c'est 30 millions de dollars, ça peut sembler important, mais en réalité, c'est presque rien. Et en 98, donc 2 ans après la signature avec Tiger Woods, ils étaient passés à 300 millions de dollars par année. En d'autres mots, je prétendrais que c'est un deal dans le cas de Nike. Je sais que ça peut sembler drôle de dire on a payé un athlète entre 500 et 600 millions de dollars durant sa carrière pour porter nos produits. Et c'est beaucoup d'argent, effectivement, mais il a généré, comme vous le disiez, comme vous l'avez montré en introduction, tellement de fric et tellement plus de fric qu'à jouer, parce que pendant ce temps-là, on parle pas des tournois et des prix qu'il a remportés durant les tournois, mais grosso modo, on parle de 120 millions de dollars. En d'autres mots, c'est à peu près 4 à 5 fois la mise du côté de la commandite.
Quand il a eu ses enjeux personnels, là, sa réputation a été écorchée, son divorce, les liaisons qui sont apparues, etc., ça a été quoi l'attitude de Nike avec lui?
Oui, ils l'ont gardé. Et ça permet d'illustrer un point fondamental du marketing, c'est que chaque marque utilise une vedette pour des raisons bien précises. Alors, à l'époque, il est avec Gillette, il est avec Nike, il est avec toute une série d'entreprises. Alors, dans le cas de Gillette, on l'a signé parce que c'est un bon père de famille. Mais là, on dit 2009, donc ennuis matrimoniaux. Pour ceux qui l'auraient oublié, la première fois que tout ça a sorti, on parlait d'une femme, puis on est passé à 2, puis 5. Puis 10. La dernière fois que j'ai arrêté de vérifier, on était rendu à quelque chose comme 50. Donc, soudainement, il n'avait plus cette belle image-là. Alors, Gillette a dit, nous, on largue. Dans le cas de Nike, on a dit, nous, on l'a pas signé pour ça. On l'a signé parce qu'il gagne. Comme il gagne, il nous garantit de la visibilité sur le terrain. Et comme il gagne sur le plan de l'image, ben, il incarne le dépassement de soi, la performance, l'entraînement, etc. Donc, toutes sortes de valeurs qu'on cherche à associer.
J'allais vous dire, à la blague, 50 maîtresses, le dépassement de soi est assez clair.
Oui.
Mais justement, si on met de côté ses ennuis personnels, étant donné que sur le terrain, ce n'est plus le meilleur joueur au monde, est-ce qu'il représentait toujours une bonne affaire pour Nike?
Jusqu'à tout récemment, j'aurais dit oui. Je l'ai vu avant la période des fêtes, j'y reviens parce que c'est assez probant. Donc, on aura compris que c'est son fils qui va prendre la place, qui a les mêmes tics nerveux, la même gestuelle. C'est absolument remarquable et qui est d'un talent. Et il est même déjà à l'aise avec les médias parce que lui, on devine qu'il a grandi toute sa vie en regardant son père, comment il se conduit, comment il pose certains gestes, comment il répond aux questions des journalistes. Alors, lui va le remplacer. Mais comme Tiger Woods nous avait annoncé qu'en 2024, il va jouer très, très rarement. Et comme il a beaucoup vieilli, si vous l'avez regardé là, attentivement, et tant qu'il se déplace aussi, on sent que c'est très douloureux, là, il n'avait plus tout à fait la même valeur. Mais moi, ce que je soupçonne, c'est que Nike va nous annoncer prochainement qu'on va pratiquement se retirer du golf. Parce que j'y reviens, le soccer est devenu tellement payant. Et je rappelle qu'à l'origine, Nike était dans le soulier de jogging. Il y a des gens qui nous écoutent actuellement qui font du jogging. C'est à cause de Nike que vous faites du jogging. Je vous l'annonce, là, parce que l'un des deux cofondateurs de Nike a été le premier à écrire ce qui est considéré le premier livre sur le jogging dans lequel on valorisait cette idée de courir dans la ville pour rester en forme. Mais très rapidement, Nike a compris que si on vend juste des souliers aux gens qui font du jogging, ben on m'en vendra pas à moi. Puis on n'en vendra pas à la plupart des gens qui probablement nous écoutent au moment où on se parle. Alors c'est là qu'ils ont dit il faut étirer un peu la sauce et il faut on va aller dans le basket. Ah tiens, on va aller dans le soccer, mais là on va nous dire que c'est impossible parce qu'on est une firme américaine, c'est Adidas. Et puis moi qui contrôle à toute fin pratique l'industrie. Je rappelle d'ailleurs que historiquement, quand je vous parle d'Adidas et de Puma, en réalité je vous parle de deux frères. C'est la même famille. C'est juste qu'il y a eu une chicane à un moment donné de famille, comme ça arrive parfois. Ils ont créé les deux marques en question. Mais Nike ne devait pas réussir dans le soccer. Et aujourd'hui, c'est tellement payant que de concentrer ses billes, d'autant plus qu'au moment où on tend, il y a un certain ralentissement économique, ça fait aussi du sens.
Il a dit, il va y avoir un nouveau chapitre, et vous avez parlé de son fils Charlie. Est-ce que c'est le fils qui va être au cœur du nouveau chapitre de Tiger?
Oui, trois options en fait ici. Un, il pourrait signer avec une firme qui est toujours dans le golf, qui fait de l'équipement de golf et des vêtements de golf. TaylorMade, c'est un bel exemple. Mais le problème, c'est que quand je vous dis Tiger Woods, dans votre cerveau, vous venez de me dire, genre je vous dis Tiger Woods, golf, vous venez de me dire, vous avez fini la phrase, elle est déjà finie. C'est Nike. Donc, il y a un réflexe conditionné qui est attaché à ça. Alors, si vous êtes TaylorMade, vous dites, comment il va falloir que je mette des dizaines de millions de dollars pour réussir ça? La réponse est probablement impossible. Deux, effectivement, le fils. Vous dites, Grayson est une nouvelle marque, mais peut-être que le fils dit à papa, je veux voler de mes propres ailes. C'est pas le même public cible, c'est pas le même âge de fan, et puis moi, je veux repartir à zéro, puis je veux pas être non plus le fils à papa.
Le fils de, ouais.
Grayson pourrait dire, on va donner des actions à Tiger Woods, un peu d'ailleurs comme on a fait avec Roger Federer, avec On Running, qui au début était pas sûr, puis On Running a dit, si on donnait des actions de la compagnie au-delà du salaire annuel, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Et Roger Federer a dit, savez-vous, j'étais avec Nike jusqu'à tout récemment, mais un gars peut changer d'idée. Alors, il a changé d'idée. Et la troisième option, donc, la première, c'est TaylorMade, une entreprise qui est déjà là. Deux, c'est Grayson avec le fils. Ou trois, c'est lancer sa propre marque, comme d'autres joueurs de golf l'ont fait précédemment. Mais ça, on parle d'un job à temps plein pour les 5 prochaines années.
Mais on parlait aussi, oui. J'avais entendu que dans cette troisième option-là, qui pourrait s'associer à Rory McIlroy, par exemple.
Là, oui, ça pourrait être une idée. Sur le plan des habiletés d'affaires, dans le cas de Tiger Woods, c'est moins clair. C'est-à-dire que oui, il était bon pour faire des bonnes affaires, mais je pense à LeBron James, c'est un autre bel exemple. Lui, déjà, il a investi dans des équipes de sport professionnels, le Fenway Park, certaines équipes de hockey, d'ailleurs, certaines équipes de soccer, éventuellement probablement l'équipe de la NBA à Las Vegas. Mais dans le cas de Tiger Woods, on ne le sait pas. Il était excellent sur le terrain, mais brasser des affaires, c'est déjà autre chose. Alors oui, il pourrait s'associer à quelqu'un en disant, sais-tu quoi, on va le faire à deux. Et là, vous venez de me décrire, au fond, une marque qui serait d'une puissance inouïe parce que on a celui qui est toujours là, on a Tiger Woods. Puis évidemment, excluons pas non plus toute la mouvance de la LIV et de la PGA là, qui n'est pas encore réglée et qui va devenir importante, parce que la date butoir, c'était le 31 décembre. Il n'y a rien qui a été annoncé officiellement maintenant. Et la rumeur, c'est que le prochain sport qui intéresserait le fonds souverain d'Arabie Saoudite, ce serait le tennis. Et quand on commence à y réfléchir, ça fait énormément de sens. Le golf et le tennis, on est dans des industries connexes sur le plan de la construction du modèle d'affaires.
Merci beaucoup, M. Dupont.
C'est un plaisir.
Merci, bonne journée.
Et voilà.
On est dans l'argent, hein?
Écoute, hier, c'était ton joueur de baseball à combien déjà?
700 millions.
700 millions.
700 millions, mais c'est 2 millions de salaire. N'oubliez pas que...
Oui, je sais, c'est...
À sa retraite, il va toucher 68 millions par année pendant 10 ans.
Son REER est assez pesant. Merci, monsieur.
Vous écoutez Balado du dimanche, une présentation de C23. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à l'Essentiel de Paul Arcand sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un nouvel épisode tous les jours en semaine vers midi. Après la pause, ça tient la route avec Benoît Charrette.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.